Alors bonjour, nous sommes à la rencontre de Tony Valente, auteur de Radiante, un manga qui vient de paraître chez Ankama et dont il va nous parler un peu plus avant. Alors Tony, bonjour.
Bonjour.
Première question, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi pour commencer?
Je suis donc auteur de BD et puis de manga français. Avant de faire Radiante, j'ai fait trois séries dans un format plus classique, franco-belge, en couleur et tout ça. Mais passionné par le manga depuis toujours, j'ai toujours eu très très envie de faire un vrai manga pur et dur, et c'est ce qui est arrivé avec Radiante.
D'accord. Ça t'a pris combien de temps, je dirais, de l'idée jusqu'à la création quasi totale?
L'idée a germé alors que je faisais une autre série il y a un moment déjà. C'était une histoire secondaire que j'avais développée qui m'intéressait beaucoup. Puis ça a germé pendant quelques années, ça s'est enrichi pas mal. Et tout dernièrement, quand j'ai présenté mon book, ça a trouvé une vraie orientation fantasy avec la sorcellerie, puis d'autres éléments qui se sont rajoutés un peu au dernier moment. Mais le thème principal, on va dire, m'est venu il y a 4-5 ans. Et puis le héros, encore avant, le héros, je l'avais dessiné. J'aime faire des personnages à côté de mes bandes dessinées, des personnages qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Puis ce héros est né, je pense, il y a 6 ans à peu près. Les premières esquisses, voilà.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi un manga?
Parce que j'aime en lire, d'abord. C'est ce que j'aime le plus lire, pour le moment, en tout cas. Et voilà, j'ai toujours voulu raconter des histoires en faisant des dessins, quoi. Le manga, là, c'est vraiment un format, enfin, c'est exceptionnel pour raconter des histoires. Il y a de la place. Comme on est en noir et blanc, on se concentre vraiment sur ce qui est raconté et non plus sur une esthétique qu'on peut avoir dans la BD française, que j'adore en plus, la BD française, mais que dans laquelle je me sens étriqué pour raconter mes propres histoires, en fait. Voilà. C'est tout simplement ça. J'avais commencé en faisant de la bande dessinée tout simplement parce qu'on est en France et il me semblait logique d'en faire. Mais au final, c'était vraiment du manga que je voulais faire. Alors j'espère que ça va marcher assez pour que je puisse en continuer. Parce que sinon, revenir pour raconter mes histoires dans un format plus classique, ça risque de me frustrer pas mal maintenant.
Avant de pouvoir justement poser des questions sur l'œuvre en tant que telle, est-ce que tu peux nous présenter Radiante et nous expliquer le titre également?
Alors Radiante, c'est un shonen classique, dans le sens où c'est une quête initiatique d'un héros... Qui va combattre contre pas mal d'ennemis, quoi, en quelque sorte. Son but à lui, c'est de trouver le Radiant, qui est dans mon univers, qui est le berceau des Némésis. Les Némésis étant des monstres qui tombent du ciel et qui déciment pas mal la population. Le héros fait partie d'une frange capable de résister aux Némésis. Et en résistant aux Némésis, en général, les gars, on devient chasseur de Némésis, tout simplement. Lui, c'est son but dans la vie. La particularité des survivants, c'est qu'ils sont infectés d'une maladie et qui, du coup, font l'objet d'un rejet assez permanent de la part des gens qui ne sont pas touchés par la Némésis. Du coup, lui, son combat va être non seulement de trouver la Radiante, mais aussi de prouver aux gens que les monstres, c'est pas eux, c'est pas les sorciers qui sont infectés et qui ont survécu, c'est vraiment les Némésis, ceux qui tombent du ciel. Donc, toute sa quête va être de prouver que c'est un être humain, quoi, en quelque sorte, voilà. Et que les gars, dans son cas, ne sont pas des monstres non plus.
Alors, vu qu'on parle manga, on sent que c'est bourré de clins d'œil, bourré d'allusions et de références à pas mal d'autres mangas, que ça soit déjà le héros, inconsciemment, moi j'ai pensé, c'est tout bête, mais avec les cornes, à Blue Exorcist. Les Némésis, quand on les voit, on a l'impression de tomber entre Bleach et les monstres de Dick Grayman. L'espèce de groupe que forment les sorciers avec leur petite particularité physique du fait de la maladie, ça fait songer quelque part entre Dick Grayman, justement, Blue Exorcist et tous ces mangas où on tombe sur une espèce de groupe qui est là pour protéger les autres et qui passe leur temps généralement à courir parce que les autres, justement, le reste de la population, les craint. Les met quasiment dans le même sac que les créatures qui combattent. Mais au-delà, il y a également aussi un énorme message, je dirais au-delà de la baston classique, façon Dragon Ball et autres, c'est l'acceptation de la différence, une critique un peu du racisme et des préjugés qu'on peut avoir par rapport à l'autre parce qu'il est différent, et une formidable quête, effectivement, tout du long.
Oui, Mais le fond, c'est vraiment ça, c'est parler de l'exclusion. Ouais. La différence physique, la différence des fois de religion, d'ethnie, n'importe quoi. Des différences, on peut en trouver partout, même dans une même famille, tout le monde est différent de toute façon. Donc ça me fascine assez, le rejet qu'on peut trouver partout et à toutes les époques. À notre époque, on n'est pas épargné, ça a toujours existé. Je pense que ça, malheureusement, ça existera toujours. Mais c'est finalement, j'ai pas commencé à radier en me rendant compte que c'est de ça dont je parlais, mais je peux maintenant vraiment dire que c'est ce thème qui m'était venu en tête et c'est ça qui m'a poussé à faire cette histoire, de cette manière-là en tout cas. Et à travers le héros, qui a lui des cornes sur la tête, donc qui est foncièrement différent des êtres humains normaux, parler un peu de ça. Puis c'est vrai que les autres sorciers qui vont l'accompagner sont eux aussi assez assez marqué physiquement, mentalement, tout ça, qui fait qu'eux aussi sont l'objet d'autres types de rejets. Je parle un peu de ça.
Alors, tu t'es amusé à créer justement toute une brochette de personnages qui va de la sorcière qui a recueilli le héros et qui va le former. Bon, en plus en lui foutant d'ailleurs par moments des paires de baffes, histoire que ça rentre bien dans sa caboche plutôt qu'autre chose. On tombe à un moment sur un groupe de sorciers, mais à mourir de rire, et qu'on l'air fort sympathique au demeurant, et puis qui au final s'avère pas aussi sympa que ça. On tombe sur une charmante jeune fille qui a l'air adorable à tout point de vue, et puis qui a une double personnalité assez explosive, dirons-nous, et sur un personnage alors qu'on aperçoit un tout petit peu dans le manga, mais qui à mon avis prendra une grande importance par la suite, un chat qui recrute le perso, et on a le sentiment que c'est finalement la plus mauvaise idée qu'il ait pu avoir d'entrer dans une école pour pouvoir apprendre à domestiquer son don. Alors, est-ce que tu peux nous présenter justement tout ce panel de personnages et expliquer un peu les références, comment tu les as créées? Est-ce que ceci, au bout d'un moment, comme tu dis souvent, quand on débute un truc, on a une idée, puis au final, on part dans une autre direction, parce qu'on dit, tiens, ce serait marrant de faire ceci ou cela?
Oui, en fait, les personnages, comme je disais, j'aime bien en créer à côté de mes productions. Et il y a quelques personnages de Radiante qui avaient été dessinés en dehors de Radiante, avant même que je fasse Radiante, qui sont transformés et qui sont mis dans l'histoire. Comme le propos me permet de mettre tout un tas de tares et de débileries dans les caractéristiques des personnages, et que ça me fait beaucoup marrer. Je suis lecteur de One Piece, c'est ce que je préfère, et je rigole bien dedans quand je vois tous les travers que peuvent avoir plein de persos. J'essaie d'en mettre comme je peux, j'essaie d'être pertinent avec l'univers et avec l'histoire que je raconte. Et c'est vrai que la double personnalité, par exemple, c'est un truc qui me fait beaucoup marrer. Du coup, j'utilise. Dans le tome 2, j'appuie encore plus dessus. Je montre d'autres facettes de la personnalité de Mélie, puisque c'est le personnage concerné. Mais il y a encore d'autres personnages à venir avec bien du folklore.
Et en plus, à la fin, on a tu présentes, pour ainsi dire, sans trop spoiler, la caste des inquisiteurs qui eux traquent justement les sorciers. Enfin, là, on tombe vraiment sur les grands méchants parfaits qui tombe sur une anomalie, le héros lui-même, qui a la capacité d'utiliser la magie sans gants, ce qui est une énorme surprise pour tout le monde, et qui fourre tout le monde dans le même sac. Alors on a l'impression que leur but, c'est l'extermination pleine et entière du problème, donc les némésis et les sorciers dans la foulée.
Ce qui m'intéressait avec l'Inquisition, c'était le côté, justement, on met un peu tout le monde dans le même sac, et t'es soupçonné, t'es coupable.
Oui, l'intolérance dans toute sa splendeur.
C'est ça. En m'intéressant à la chasse aux sorcières d'un point de vue historique, je me suis rendu compte que les dérives, il y en avait eu pas mal grâce à l'Inquisition. Et du coup, ça m'a... Quand je me suis dit que j'allais parler justement de sorcellerie et d'Inquisition, c'est vraiment grâce aux inquisiteurs. C'était pas... J'adore l'univers de la sorcellerie depuis un moment, mais de voir l'Inquisition, tout ce qu'ils avaient réussi à faire, toutes les lois qu'ils avaient réussi à mettre en place, la manière de traquer les sorcières, de prouver aussi que c'était des sorciers, les faire couler, s'ils coulent...
Oui, ça rappelle toujours le sketch des Monty Python, si elle flotte, c'est que c'est une sorcière, donc brûlez-la.
Si elle survit, on la tue, de toute façon.
Ah ben, elle n'a pas survécu.
Ah ben,
Dommage.
Bon, elle était innocente, on va l'enterrer, elle est morte maintenant. Mais c'est un peu ça qui me fascine, ça me fait rire maintenant avec du recul. Je pense que je peux faire plein de situations assez rigolotes dessus. Sur le fond, c'est encore pratiqué dans pas mal de pays d'autres manières en fait. C'est plus l'Inquisition, mais on va dire l'Inquisition des bonnes mœurs, ça existe partout, ça existe en France aussi. En France, on peut pas tout dire. Il y a des gens qui le tapent dessus dès qu'on aborde certains sujets et qui nous mettent à l'écart. Et c'est une forme, pour moi, c'est exactement la même forme que l'Inquisition, quoi.
Oui, je dirais que c'est un certain état d'esprit. C'est on se place nous-mêmes des œillères en estimant que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis effectivement, il y a rien à changer, partant du principe que ça a toujours existé.
Ça a toujours existé, il faut le tolérer comme tel, de toute façon, il faut faire avec, c'est ça. Et ça m'ennuie assez de rester sur ça. Je suis pas un révolutionnaire, je vais pas prendre les armes et soulever la population. En revanche, dans ma liste.
Ça risque de se terminer comme dans ton manga, je pense que la population te balancera des cailloux.
Ben, c'est ça. Du coup. Bah, à travers mon histoire, j'essaie d'avoir des certains thèmes qui me plaisent. Alors là, ça fait très sérieux, alors que c'est plein de blagues
Ah oui, non, ça, autant le dire, le manga, c'est toujours difficile. Enfin, je trouve toujours biaisé de faire une comparaison, parce qu'automatiquement, les gens vont se dire, oui, mais s'ils comparent, c'est que le truc peut pas forcément exister en tant que tel. Mais pour moi, c'est du One Piece. Il y a une fraîcheur, il y a de l'humour, il y a effectivement des thèmes beaucoup plus sérieux sous-jacents, ça on le voit bien, mais c'est un manga qu'on peut lire mais de 7 à 77 ans sans sourciller, quoi. Il y a suffisamment d'éclates, les scènes de baston, bon, on a l'impression de tomber sur du Dragon Ball pur jus avec population, je viens de sauver, ah, j'ai détruit la moitié du village dans le processus. Ça rappelle aussi inconsciemment tout un tas de trucs, que ce soit les indestructibles ou toute la série des Sentai, où on a sauvé, hein. Bon, on a pour des millions de dégâts, on a tué 2-3 personnes dans le processus, mais on vous a sauvé.
Ben, c'est ça. Je peux pas faire un héros tout lisse qui arrive, qui sauve tout le monde, et en plus qui s'en sort avec rien. Donc, dans ce cheminement, déjà ça me fait marrer les héros qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc, c'est un peu le cas de Seth, mon héros. Mais dans son cheminement, j'ai aussi besoin de montrer qu'il va évoluer, il va prendre conscience de plein de choses, donc des choses au début dont il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience du pouvoir destructeur qu'il a et du mal qu'il peut faire en essayant de faire le bien. Finalement, en essayant de faire le bien au début, il fait beaucoup plus de mal. Et là où il essaie de montrer qu'il n'est pas un monstre, il fait exactement le contraire. Et ça va vraiment servir l'histoire au fur et à mesure. Ça va vraiment...
Puis même dès la fin, sans trop en révéler, on se rend compte que le personnage se rend compte que la situation n'est pas aussi simple que ce qui apparaissait, qu'il n'y a pas que des méchants, il n'y a pas que des gentils, que chacun a sa propre façon de voir les choses, et que jusqu'à maintenant, finalement, on ne comprend pas pourquoi ces monstres tombent, pourquoi ils détruisent tout sur leur passage, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils sont, et ainsi de suite. C'est, au final, comme tu dis, le problème est nettement plus compliqué que ça. D'où viennent-ils? Pourquoi? Est-ce que finalement la solution à tous les à cette source de problème est réellement de continuer à la détruire envers et contre tout?
Les Némésis, en fait, ça m'est venu le nombre de catastrophes qu'il y a eu ces dernières années, catastrophes climatiques ou de tremblements de terre, tout ça. Ça semblait assez concentré, en tout cas on en voit beaucoup plus dans les médias qu'avant. Je me suis dit, c'est marrant cette concentration d'événements là d'un coup, et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire des Némésis qui tombent à n'importe quel endroit et qui ont toujours une action différente. Alors le premier, il détruit tout, comme si c'était presque un tremblement de terre qui ravageait un peu. Puis après, on peut imaginer qu'il y en a qui vont mettre des incendies, il y en a qui vont créer des tornades, il y en a qui vont empoisonner les eaux. Je voulais mettre ça parce qu'après, je voulais que la société puisse pointer du doigt des gens responsables. Et là, c'est facile de dire, les sorciers sont peut-être de mèche avec eux. Ils utilisent la même énergie. Comment ça se fait qu'ils survivent? Trouver des coupables tout désignés, comme le font toujours toutes les sociétés à un moment donné.
Un bouc émissaire.
Et c'est peut-être eux qui sont responsables. En tout cas, s'ils sont pas responsables, eux nous emmerdent bien aussi. Il faut les chasser. Donc, il me semblait que c'était un bon pivot pour parler encore une fois de l'exclusion et des sources qui peuvent amener à exclure les gens. Après, je cherche vraiment pas à faire un récit manichéen. Tous les sorciers de mon univers ne sont pas bons, loin de là. J'en montre déjà dans le dans le tome 1 qui font le contraire. Et pareil pour les inquisiteurs. Je vais faire entrer en scène des inquisiteurs qui sont loin d'avoir une foi mauvaise. Parce que ça va parler un petit peu de religion aussi. Je ne suis pas foncièrement contre la religion, je suis contre le clergé en quelque sorte plutôt. Le système de maîtrise de la religion, le fait d'avoir un chef au-dessus de la religion et de dire « c'est moi qui décide et puis toi si t'es pas d'accord... »
De toute façon, les religions, c'est comme n'importe quel groupe. Au-delà de 4, ça devient l'enfer.
C'est ça. La religion, maintenant que je me suis intéressé aux religions et au principe même des religions, je trouve que sur la base, c'est plutôt des messages positifs. Ce qu'en ont fait les gens, c'est carrément complètement négatif. Le fait d'aller tous à un endroit, filer des sous à quelqu'un et écouter les prières de quelqu'un, ça n'a tellement rien à voir avec ce que propose la religion à la base. Et pourtant, je ne suis pas religieux, vraiment. Et je suis profondément athée, mais je respecte quelqu'un qui va trouver là-dedans une espèce de philosophie de vie. Que peut-être, dans notre société, on a beaucoup moins de repères en ce moment. On a beaucoup moins de repères moraux et peut-être les gamins sont un peu perdus parce qu'ils ont plus... Il n'y a rien qui a pris le relais de la religion maintenant. C'est la télévision, tout ça. C'est peut-être pas la meilleure chose non plus. Mais l'extrémisme dans la religion, c'est complètement taré, c'est complètement débile. À côté de ça, de toute façon, mes grands-parents sont religieux, une partie de ma famille aussi, sont des gens très bien. J'en parlais aussi dans mon histoire d'une manière plus... Ce sont pas les méchants, hein. Il faut pas croire.
Oui, non, mais ça, c'est pareil. Moi, je suis athée, mais je proviens d'une famille un peu religieuse. Ma compagne, c'est pareil. La religion, c'est ce qu'on veut en faire aussi. À l'origine, c'est des règles de société pour essayer d'instituer un cadre un peu plus, à la fois plus ouvert et un peu moins violent. On a tendance à l'oublier. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi un outil de pouvoir, hein, on ne peut pas se leurrer. C'est aussi utilisé par des sociétés, par des pouvoirs mis en place qui se déclarent. Partant du principe que toute socialité n'est pas foncièrement juste et qu'elle peut difficilement devenir, autant essayer de vendre aux gens quelque chose de positif en disant il y a des règles, il y a des cases, pour ainsi dire, il y a une hiérarchie qui doit tenir. Et si vous vous comportez bien, à la fin, il y aura ceux qui seront bien comportés auront un paradis, ceux qui seront mal comportés iront automatiquement en enfer. Donc, effectivement, on tombe vraiment sur... Oui, c'est ça, pour moi, c'est un cadre de vie. Transposé dans un cadre beaucoup plus métaphorique.
Oui, c'est ça. C'est une espèce de philosophie. Et, je vais essayer d'aborder un peu le thème. Bon, encore une fois, comme le manga est assez léger et tout... C'est des thèmes sous-jacents, c'est des choses qui vont servir à construire les personnages et à faire un peu avancer l'histoire. Mais c'est des choses qui m'intéressent aussi beaucoup. C'est vrai que la religion, on peut tout et rien en faire comme tout, quoi. Après, ça dépend de chaque individu. Et dans mon histoire, c'est pareil. De chaque côté de la barrière, il va y avoir des gens recommandables, d'autres moins. Peut-être que le grand méchant va s'allier au héros, on ne sait pas. Peut-être que le héros va faire des choses assez mauvaises aussi. Bon, je dis de suite non. Mais je vais essayer de faire des personnages humains. Ouais. Et l'humain, il a plein de facettes et ça me fascine assez. Du coup, je vais essayer de développer au mieux tout ça, tout ce qui fait l'être humain, toutes les facettes qu'il peut avoir et construire mes personnages comme ça.
En tout cas, on a hâte. Techniquement, ça t'a pris combien de temps pour le réaliser et comment tu as travaillé? Beaucoup de numérique, tu es revenu à la bonne vieille technique du mangaka, le crayonné, l'ancrage.
Oui, c'est ça, crayonné, puis ancrage avec la plume. Donc j'ai vraiment suivi les méthodes des mangakas parce que j'en ai essayé plein et il se trouve ce qui rend le trait à ces mangas, c'est vraiment la plume japonaise en fait, ça marche vraiment bien et... J'ai adopté cet outil, j'adore ça. Du coup, je suis revenu encre, plume, papier, et les trames sur l'ordinateur, par contre. Comme n'ayant pas d'assistant, ce serait très long à mettre à la main.
T'as pas le studio d'assistant derrière, en train de trimer nuit et jour.
Et c'est ça. Du coup, je fais les trames à l'ordinateur et la couleur quand il y en a, la couverture et puis les toutes premières pages à l'ordinateur aussi. Ça a toujours été ma méthode.
Et ça t'a pris combien de temps?
Ça m'a pris entre 7 et 8 mois pour le premier tome. Puis j'espère passer à peu près à 6 mois pour les prochains, pour avoir une cadence de 2 par an.
D'accord. Alors le contrat justement, c'est, si j'ai bien suivi, 3 tomes qui formeront une histoire finalement complète avec soit une fin ouverte pouvant mener à une suite, si ça marche du feu de Dieu, que tout le monde est en train d'hurler. Là d'ailleurs, peut-être qu'en passant tout à l'heure, on aura 10 000 fans en train de scander ton nom et de jeter les couvertures en l'air. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. Ça, je te le souhaite. et ou une fin, quasi définitive, bouclant la boucle, donnant des réponses aux questions et imaginant une ou des solutions au problème de Némésis.
Au tome 3, il y aura un tournant dans l'histoire. Alors soit ce sera l'aboutissement, mais ça resterait une fin ouverte, on est obligé de s'imaginer la suite. Et si ça devenait une suite, évidemment, soit le début d'une saison 2. Malheureusement, mon histoire est trop longue pour que je puisse la faire en 3 tomes. Du coup, un tournant va...
Enfin, non, pas malheureusement, heureusement.
Heureusement. Mais les gens sont déçus quand ça s'arrête en 3 et que c'est pas fini. Mais je préfère prévenir. Mon histoire, je l'aurais mal racontée si elle était en 3 tomes uniquement. Je suis fan de série Fleuve et du coup j'ai construit mon histoire. J'ai essayé de construire une histoire en 3 tomes. J'ai pas réussi. Mon histoire prend beaucoup plus de place que ça. Donc au tome 3 serait un tournant, un certain aboutissement dans la quête du héros, qu'il arriverait à un point vraiment décisif de sa quête. Mais il n'aurait pas trouvé le Radiant, puisque la quête de base c'est trouver le Radiant. Ça serait un truc tout aussi important, voire peut-être plus, mais ce ne serait pas la fin de l'histoire à proprement parler, non.
Eh bien, en tout cas, merci. Une idée déjà de la sortie du tome 2, plutôt 2014 ?
Tout début 2014, oui. L'idée serait décembre-janvier, j'aimerais bien. Après, ça va dépendre de si je tombe pas malade, si je me pète pas un bras ou...
c'est un appel au studio Ankama pour pouvoir leur dire « Envoyez-moi des assistants
». C'est ça.
En tout cas, merci à toi. Sincèrement, j'ose espérer que ça sera une série, une saga, comme tu dis, mais vraiment longue, tumultueuse, remplie de drames, d'aventures, de moments de bravoure, d'amour. Il faut espérer qu'il y en aura aussi. Et de révélations forcément fracassantes.
Oui, j'espère. J'ai tout ça en tête, j'espère le faire au mieux. Et j'espère que les gens vont me suivre et essayer le tome 2, en parler, tout ça. Voilà, c'est ce que je souhaite.
Merci à toi.
Merci.